La carte Visa Orange Monnaie, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Allez, plus que 10h et 50 minutes de patience à 19h temps universel. L'arbitre camerounais Alioune Alioune sifflera le coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal, Algérie, une finale, vous le savez, inédite. En tout cas, les deux équipes se sont déjà affrontées, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, lors de la phase de poule à l'occasion de la 2e journée. Je vous rappelle le score, 1-0 pour l'Algérie. Alors, quels sont vos pronostics pour ce soir? Les Fennecs peuvent-ils réitérer l'exploit de leurs aînés, vainqueurs il y a 29 ans? Les Lions de la Teranga vont-ils conquérir le premier titre de leur histoire? Vos pronostics, évidemment, au standard et sur les réseaux sociaux. Plus d'un millier de commentaires reçus ces dernières 24 heures. Continuez évidemment à poster. Je ne pourrai pas tous les lire à l'antenne. J'en lirai évidemment quelques-uns, mais vous pouvez débattre entre vous. Et je vous donnerai les résultats de notre vote, notre sondage Facebook, WhatsApp, Twitter. Ces 2 derniers jours, vous avez pu voter sur nos réseaux sociaux, soit pour le Sénégal, soit pour l'Algérie. Je vous communiquerai les résultats. Vous pouvez aller. Vous pouvez encore voter 10 minutes sur notre compte WhatsApp. Je vous redonne le numéro de téléphone 33 6 89 28 53 64. Sinon, vous allez sur Facebook et vous avez toutes nos coordonnées. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction de RFI, les questions pour mieux comprendre l'actualité. Ouda Ibrahim, du service Afrique de RFI, est à mes côtés. Bonjour Ouda.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Je vous ai demandé de venir ce matin, Ouda, puisque vous suivez de près l'évolution de la situation en Libye. Et on a justement des questions sur la Libye. Alidor nous a contacté de Kinshasa. Bonjour Alidor.
Bonjour Juan Gomez, bonjour Ouda Ibrahim.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, merci. Bien avant tout, je pourrais profiter de votre micro pour voter pour le Sénégal.
Allez, vous votez pour le Sénégal, ce qui fait une voix de plus pour le Sénégal. Je pense que tous les auditeurs vont de la première partie vont voter. Mais c'est ça, on est entre nous et c'est normal. Un jour de finale, tout le monde veut voter, tout le monde a son point de vue et un commentaire. J'imagine qu'Ouda Ibrahim a également son pronostic.
Pour celui qui joue mieux.
Ah bah évidemment, voilà. Que le meilleur gagne. Alors, Alidor, on vous écoute.
Voilà, merci. Près de 100 jours après le lancement de l'offensive contre le Tripoli, l'ANL du maréchal Haftar annonce l'assaut final. Du coup, je voudrais avoir des éclaircissements là-dessus. Mm-hmm. Quelles sont les chances d'Haftar de prendre la capitale? De quels moyens militaires dispose-t-il? Et enfin, pouvons-nous nous attendre à une certaine intervention de la communauté internationale?
Ah, bonne question, effectivement. Ce sera notre bataille définitive. Voilà ce que disait il y a quelques jours le porte-parole de l'armée de libération nationale du maréchal Haftar. Effectivement, Alidor le rappelait à l'instant, 100 jours déjà que le maréchal, l'homme fort de l'Est, a lancé cette offensive sur Tripoli pour essayer de prendre le contrôle de la capitale. Tripoli où siège, rappelons-le, le gouvernement d'Union, ce gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Quelles sont les chances du maréchal de prendre la capitale?
Alors, c'est difficile à dire. Déjà, la guerre dure depuis plus de 100 jours. Il n'a pas réussi à faire une percée vers la capitale. Il a même perdu une ville stratégique qui est la ville de Gharian, où il devait faire le tour de Tripoli entre la ville de Tarhouna et la ville de Gharian. Malheureusement, il a perdu cette ville, malheureusement, pour la guerre, pour la durée de cette guerre, parce que c'est une guerre quand même qui a coûté jusqu'à maintenant plus de 1100 morts, plus de 5500 blessés, plus de 100 000 personnes déplacées, des civils déplacés. Il y a des civils qui sont morts. C'est une guerre qui coûte beaucoup pour tous les partis en Libye et d'abord pour le peuple libyen. Et on voit que Khalifa Haftar essaye de faire une sorte de guerre d'usure depuis la perte de Gharian il y a plus de 22 jours.
Une guerre psychologique finalement.
Psychologique aussi. Mais d'usure militairement, c'est-à-dire depuis la perte de cette ville, depuis le choc que la perte de cette ville a causé dans les rangs de ses forces, il utilise l'aviation. Tous les jours, il y a des bombardements intensifs des positions des forces de Tripoli, mais aussi des positions des dépôts d'armes à Tripoli et dans les villes avoisinantes, un peu partout. Et c'est vraiment intense. Il a réussi depuis à frapper aussi à l'aéroport de Maitiga les drones qui sont venus de la Turquie. Et il a au moins fait abattre 5 drones.
Mais ça veut dire quoi, Ouda Ibrahim? Ça veut dire qu'il a les moyens militaires aujourd'hui d'effectivement de conquérir Tripoli, la capitale libyenne?
C'est clair que par rapport à l'aviation, il est en force. Par rapport aux forces de Tripoli qui ont perdu même un Mirage il y a quelques jours. Donc il est en force par rapport à l'aviation. Il continue à recevoir des armes, tout comme les autres. Il y a encore des armes qui sont arrivées de la Turquie il y a 2 semaines vers Misrata et vers Tripoli. Il a promis d'ouvrir de nouvelles lignes de front. On sait qu'aujourd'hui, il y a 7 lignes de front autour de Tripoli. Il a promis d'ouvrir de nouvelles lignes. Et on sait, par exemple, que les forces de Tripoli ont essayé 7 fois de prendre l'aéroport, pas loin de la capitale. L'aéroport qui est un site stratégique situé sur une colline, et ils n'ont pas réussi.
Ouais. Quelle sera la réaction de la communauté internationale? La communauté internationale peut-elle intervenir, nous demander à Lidor? Elle intervient, mais à vous entendre, elle intervient pour certains pays tout du moins en livrant des armes aux deux camps.
Tout à fait, et c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises, la Turquie, la France et d'autres pays qui ont livré et qui livrent toujours des armes à la Libye, pas seulement à Haftar mais aux forces des milices de Tripoli. Oui. Et le problème, c'est que la communauté internationale est très divisée sur la Libye. On a vu il y a quelques jours un communiqué commun de 6 pays avec la Grande-Bretagne, la France, l'Italie. Pour la première fois, la France et l'Italie ensemble dans un communiqué, y compris les États-Unis et 2 pays arabes, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Mais ces pays appellent juste à arrêter le combat, à revenir à la table de négociation. C'est que personne sur le terrain, et surtout le général Haftar, ne le veut aujourd'hui. Ils veulent continuer le combat jusqu'à la prise de Tripoli. Je rappelle juste une chose, c'est que depuis 2016, le maréchal Haftar dit: je vais marcher sur Tripoli, et il est en train de le faire.
Ouais, sait-on quand sera lancée, en 2 secondes, cette dernière offensive? Présentée comme la dernière offensive.
C'est peut-être dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, c'est ce qu'ils disent, mais ça participe certainement à cette sorte de guerre psychologique qu'il est en train de mener aussi.
Alidor, a-t-on répondu à vos questions?
Absolument. En tout cas, coup de chapeau à l'équipe des RFI.
Merci de vos encouragements. Bonne journée à Kinshasa. Ouda Ibrahim, à bientôt.
À bientôt.
Il est 10h18 à Paris. Vous nous appelez, vos questions, 33 9 693 693 70. Bonjour Kalilou.
Bonjour Rouhane, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Cotonou, au Bénin. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Le président français Emmanuel Macron a annoncé la création d'un commandement militaire de l'espace. En quoi c'est un enjeu de sécurité nationale, comme l'a affirmé le président français, et quel sera le rôle de ce commandement?
C'est vrai que l'année dernière, déjà, le président Macron avait déclaré souhaiter pour la France une stratégie spatiale de la défense. Eh bien, samedi dernier, lors du traditionnel discours à la communauté militaire, discours qui est prononcé la veille du défilé du 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé la création, dans 2 mois, d'un grand commandement de l'espace. Jean-Pierre Molny, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste des questions de défense. Visiblement, le président Macron veut qu'à terme, l'armée de l'air devienne l'armée de l'air et de l'espace. Et il qualifie effectivement, comme le rappelait notre auditeur, il qualifie l'espace de véritable enjeu de sécurité nationale. Quels sont ces enjeux?
Les enjeux, c'est que depuis 40 ans à peu près, l'espace c'est un lieu où on peut à la fois faire de l'observation satellitaire, et puis où on peut faire des relais de communication. Mais ce qu'on observe maintenant depuis 5 à 10 ans, c'est le développement d'une utilisation, on va dire, de plus en plus agressive de certains pays de l'espace, avec des moyens qui visent à brouiller les satellites d'autres pays, voire même à les interdire de fonctionner. Donc on avait un satellite notamment qui avait été observé par les Russes à la fin de l'année dernière.
C'était un satellite militaire qui avait été observé par les Russes.
Oui, tout à fait. C'était effectivement un satellite militaire. Ça devient un enjeu de sécurité parce qu'il faut absolument protéger nos satellites, notamment les moyens d'observation et de communication. Les communications sont essentielles pour nos opérations extérieures. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer ce commandement de l'espace qui visera en fait à donner une véritable capacité aux armées françaises de définir les programmes futurs de spatiaux, ce qui n'était pas le cas véritablement par le passé. C'était un petit peu le parent pauvre de la défense en France, l'espace, et puis à définir une véritable stratégie de défense dans l'espace.
Ouais, donc la guerre des satellites a déjà commencé. Quand vous parlez de protection, c'est-à-dire que la France entend se protéger, on va dire, de manière active, c'est-à-dire qu'elle décidera de détruire, par exemple, un satellite ennemi, si jamais à l'avenir un satellite russe s'approche d'un satellite français militaire, la France n'hésitera pas à le détruire ?
Déjà, dans un premier temps, ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est tout simplement d'avoir une cartographie des objets spatiaux. J'ai envie de dire savoir qui est qui. Le spatial, c'est un petit peu comme le cyber, c'est-à-dire que les ennemis potentiels, ils vont pas agir en essayant de détruire votre satellite, ils vont essayer de l'interdire de fonctionner. Mais il faut essayer d'identifier quels peuvent être les agresseurs. Et il faut dissuader ces agresseurs. Je pense que l'objectif ne sera pas de détruire nécessairement les satellites qui pourraient être intrus, mais éventuellement, si ces satellites essaient de nous interdire de fonctionner, nous aussi, on pourrait. Oui. Envisager ce type d'action.
L'expertise de Jean-Pierre Molny, spécialiste des questions de défense à l'IRIS. Merci d'avoir été avec nous. Khalilou, bonne journée. À Cotonou, il est 10h22 à Paris. Vous continuez à nous appeler. Vous continuez encore 5 minutes à voter sur le compte WhatsApp de l'émission qui, du Sénégal ou de l'Algérie, soulèvera le trophée ce soir au Caire, finale Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Anthony Latier. Journaliste au service politique de RFI, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Romaric a des questions à vous poser, puisqu'il suit de près l'actualité politique française. Bonjour Romaric. Romaric, êtes-vous là? Alors, je vois Romaric sur mon écran. Est-ce qu'on l'a? On l'a pas? On ne sait pas. Il a disparu quelque part entre Paris et Lomé, d'où il nous appelait. Je me fais donc le porte-parole de sa première question, puisqu'il revient sur la démission de François de Rugy, désormais ancien ministre de l'écologie. Et il nous dit pourquoi le fait que François de Rugy ait payé sa cotisation à son parti de l'époque, Europe Écologie Les Verts, avec son indemnité parlementaire, pourquoi cela pose-t-il problème?
Alors, en effet, Juan, pour revenir, François de Rugy a payé à deux reprises, selon Mediapart, en tout cas sa cotisation au Parti écologiste avec l'une de ses indemnités quand il était député. Là, on parle de l'époque 2013-2014. Il a pioché dans ce qu'on appelle l'IRFM, qui n'est pas le salaire du député, mais l'indemnité qu'il reçoit pour ses frais de mandat. François de Rugy a utilisé une partie de cet argent public pour cotiser à son parti politique de l'époque, en tout pour 9 200 €. Alors pourquoi est-ce que cela pose problème? Bien tout simplement parce que cet argent, en principe, ne doit pas servir à cela. L'IRFM doit normalement servir aux députés à louer une permanence, à se déplacer, à payer ses frais généraux. Elle est, pour donner une ordre d'idée, de 5 380 € net par mois.
Ouais, c'est donc une utilisation abusive de ses frais, mais à l'époque, faut quand même le rappeler, Anthony Latier, ça n'était pas contrôlé.
Oui, l'utilisation de l'IRFM n'était à l'époque pas réglementée, 2013-2014, donc c'était une pratique même courante chez certains députés, ce qui explique une certaine pudeur sur cette affaire. Il faut attendre 2015 pour que le déontologue de l'Assemblée nationale reconnaisse que cotiser pour un parti politique avec ses frais de mandat fait partie des dépenses interdite, je cite. Puis en 2017, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ces frais ont été réformés, transformés en avance de frais de mandat. L'autre problème, Roanne, c'est que François de Rugy a déduit de ses impôts de 2015 ses cotisations, en partie donc payées par ses frais de mandat, ce qui sont défiscalisés. Et en gros, il s'est servi de l'argent public pour réduire ses impôts privés, ce qui est interdit.
Ouais. Alors, Romaric, qu'on avait au standard, mais ça vient de couper à l'instant, décidément, on n'a pas de chance, et lui non plus n'a pas de chance, voulait savoir si, suite à cette démission, le fait que le ministre de l'écologie change de statut et cesse d'être un ministre d'État, est-ce que ce changement de statut ne va pas influencer sur la portée de la politique écologique du gouvernement français ?
En tout cas, ce qu'on peut dire à Romaric, c'est que le signal politique envoyé n'est pas forcément le bon pour un président qui a fait de l'écologie sa priorité. D'ailleurs, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a peiné avant-hier à justifier la fin de ce statut. En gros, elle a expliqué que comme l'impulsion à l'écologie avait été donnée dès le début du quinquennat, en faisant de Nicolas Hulot un ministre d'État, comme cette impulsion était sur les rails, a-t-elle dit, eh bien, nul besoin d'insister aujourd'hui. En réalité, ce que l'on dit aussi à l'Élysée et au sein du gouvernement, c'est que le statut de ministre d'État est souvent donné à des poids lourds politiques, à des figures, comme c'était le cas de Nicolas Hulot, de Gérard Collomb, et avant eux, d'Alain Juppé, de Jean-Louis Borloo, par exemple. Or, Elisabeth Borne était ministre des Transports, elle est issue de la société civile, préfète, elle n'a pas de poids politique, Roanne, le gouvernement n'a pas jugé bon donc de la nommer ministre d'État. Il y a 10 mois, il faut le rappeler, Christophe Castaner, lui aussi avait perdu le statut de ministre d'État qu'avait son prédécesseur Gérard Collomb. D'ailleurs, ce titre est essentiellement honorifique, il faut le dire, un ministre d'État peut organiser des réunions interministérielles, mais ce n'est pas un pouvoir exorbitant. En revanche, un mot pour dire que le ministère de l'écologie reste numéro 2 dans l'ordre protocolaire du gouvernement, ça c'est important, il n'y a pas de rétrogradation de l'écologie.
Ouais, en tout cas certains voient au contraire un retour en arrière, hein, puisque l'environnement et les transports se retrouvent de nouveau réunis dans le même ministère,
oui, c'est
ce qui était le cas déjà lors des quinquennats de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Anthony Lattier, merci beaucoup.
Merci.
J'espère que Romaric a pu écouter vos explications, l'oreille collée au transistor. Romaric, qu'on salue donc à Lomé. Allez, il nous reste à peine 3 minutes. La dernière question, est-ce qu'on prend une dernière question ? On prend une dernière question. Dernière question de la semaine. Bonjour Maki.
Oui Juan, bonjour et bonjour à tous.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Parfait. Alors, les Nations Unies ont publié un rapport le lundi dernier, sur la faim dans le monde qui poursuit malheureusement sa progression, Juan. Et selon ce rapport, 20% de la population concernée se trouve en Afrique. Moi, j'aimerais connaître le facteur qui freine ou empêche peut-être cette lutte contre la faim sur le continent.
Ouais, effectivement. 20% de la population sur le continent africain souffre de sous-nutrition. C'est ce que révèle ce rapport des Nations Unies. Bonjour, Ana Paola Della Ocampos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste pour le programme de réduction de la pauvreté rurale pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est la 4e année consécutive que la faim progresse, dans le monde et notamment sur le continent africain. Quelles sont les raisons ? Quelles sont les explications ?
Alors, il y a vraiment un manque fondamental d'engagement politique fort pour éliminer la faim, qui n'est pas suffisant. On pense que les actions doivent être plus audacieuses. Déjà, au-delà de finir les conflits politiques et lutter contre le changement climatique, les solutions nécessitent vraiment une transformation structurelle et une transformation qui est favorable aux pauvres et inclusive, intégrant les préoccupations, par exemple, de sécurité alimentaire et de nutrition dans les efforts de réduction de la pauvreté et des inégalités entre les sexes. Aussi, les pays doivent protéger les revenus et les pouvoirs d'achat des plus pauvres, surtout en Afrique, par le biais des programmes de protection sociale, surtout dans les périodes de ralentissement et fléchissement économique.
D'accord, donc il y a plusieurs raisons, mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on est revenu finalement au niveau d'il y a 10 ans.
Comment? J'ai pas entendu.
Il y a un problème de faisceau entre Paris et Rome où se trouve le siège de la FAO. Je disais que ce qui est inquiétant et préoccupant, c'est que nous sommes revenus au niveau d'il y a 10 ans. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, la faim dans le monde a stagné. Et puis là, depuis 4 ans, eh bien, elle est en hausse, notamment sur le continent africain. Merci Ana Paola Della Ocampos d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal, évidemment. Et on revient tout de suite après pour parler d'un sujet bien plus léger. La Coupe d'Afrique des Nations et la finale ce soir.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.